On a tous dans la vie un hobby.
Un quoi ?
Un hobby, une passion si tu préfères.
Bah oui, je préfère parce que c'est le nom de l'émission. Et on met un S parce qu'il y a autant de passions que d'hommes, ou presque.
Ce qui est sûr, c'est qu'on les partage ensemble jusqu'à 21h sur Indestar.
Hey, rebonsoir sur Indestar. Oui, vous êtes au cœur de Passion. C'est la première émission avec un invité. Rebonsoir Joachim.
Rebonsoir Thierry. On est toujours présent. Et effectivement, on est présent. On est en l'honneur de la présence de Renaud. Bonsoir Renaud.
Bonsoir.
Comment
ça
va ?
Mais qui es-tu ?
Ça va très bien.
Ça va ? Mais qui es-tu ? Présente-toi.
Qui suis-je ? Alors, je suis, on va dire, un musicien sans lettres tout à fait. Un musicien tricheur, on va dire.
Ouais.
Ah, parce que tu n'appuies pas sur les touches. Hein. Tu joues de la musique qui pourrait sortir d'un
instrument. Je joue de la musique, mais je ne suis pas un musicien. Voilà, ce sera ça l'énigme.
D'accord. Alors, du coup, pourquoi Renaud ?
Pourquoi Renaud ? Bah, alors, au départ, Renaud, c'est mon vrai prénom.
D'accord.
Qui s'écrit comme.
Qui s'écrit R-E-N-A-U-D, comme un fameux chanteur français.
Ouais.
Moi-même, m'étant mis à chanter, ben voilà, du coup, il y avait un Renaud de trop. Donc, j'ai tout simplement.
Tu t'es sacrifié pour lui.
Voilà, je lui ai quand même laissé son prénom, il avait commencé avant moi. Hein. Donc, du coup, j'ai simplement un peu raccourci, et puis j'ai écrit mon prénom Renaud, ce qui fait un espèce de pseudo écrit, et qui effectivement incite beaucoup de gens à le prononcer Renaud. Ce qui donne un petit côté
atypique,
personnalisé. Voilà, on peut dire Renaud ou Renaud. Voilà.
Et donc du coup, quelle est ta passion ? Que pratiques-tu ?
Alors en fait, je joue de l'orgue de Barbarie.
Ah ! Oh, Barbarie !
Barbarie. C'est un peu barbare tout ça.
Ah ben oui, on va en parler parce qu'on va expliquer un petit peu les origines, alors supposées.
Qu'est-ce que l'orgue de Barbarie ?
Alors il y a définir l'instrument et puis à travers son histoire, il y a plusieurs explications plausibles.
C'est ça. Et donc du coup ?
Donc l'orgue de Barbarie,
oui.
C'est un instrument de la famille des instruments de musique mécaniques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un instrument dont on peut jouer quand on n'est pas musicien. Généralement, tout simplement en tournant une manivelle qui fait défiler un carton avec des trous.
D'accord.
Voilà, c'est à peu près ça.
En fait, c'est une boîte en bois.
C'est une boîte en bois sur la façade.
Lourd,
oui, c'est assez lourd. Ça pèse. Il y a tous les poids, enfin, parce qu'il y a différents modèles, mais le mien, il pèse, entre 20 et 30 kilos.
Ouais.
Donc, c'est effectivement un instrument assez lourd, assez volumineux. Et en façade, en fait, il faut imaginer un peu le même profil, la même façade d'un orgue d'église.
D'accord.
C'est-à-dire, devant, il y a des flûtes qui, là, sont en bois, qui sont disposées en forme de pyramide, comme pour un orgue d'église. Et puis à l'arrière de la machine, donc il y a une manivelle qui fait défiler un carton avec des trous. Et en fait, ces trous vont se transformer en notes de musique.
D'accord.
Donc il y a de l'air qui pénètre à l'intérieur.
Voilà, c'est un instrument à vent. À l'intérieur, il y a un gros soufflet, effectivement, qui envoie de l'air. Parce que comme c'est des flûtes, il faut souffler. Et c'est la machine qui va le faire. En gros, la machine fait quasiment tout à la place du bonhomme qui n'a plus qu'à tourner la manivelle.
Voilà, et ce genre d'instrument se transporte sur des roues, sur un.
Alors il y a des petits orgues de Barbarie qu'on peut. On voit ça sur des illustrations plus ou moins anciennes d'ailleurs. Les petits orgues de Barbarie peuvent se porter en bandoulière, mais le mien, effectivement, comme il est assez volumineux, il est sur une charrette en fait, sur une charrette à bras.
Alors on a trouvé là, en faisant des recherches, qu'il y avait plusieurs noms d'orgue de Barbarie. Si ça te dit quelque chose, Piccolo, Bel Canto.
Alors tous ces noms là en fait c'est les noms, on va dire, de modèles différents d'orgue qui ont été adoptés par un des fabricants en fait.
D'accord.
Voilà, c'est comme on va dire une espèce de marque d'orgue de Barbarie attribuée à un fabricant.
Et les premiers orgues de Barbarie, pour partir de là, ils ont été créés dans les années, dans le 19e siècle ?
Ah non, on parlait 17e, 18e.
C'est pas dans les années 1800, je crois.
Mais surtout, oui, on avait pensé, parce qu'on a trouvé un instrument qui était éventuellement l'ancêtre de l'orgue de Barbarie.
Ah oui, du coup,
la serinette.
Oui, voilà, la fameuse serinette.
Qu'est-ce que c'est que la serinette ?
Alors, la serinette, qui est l'ancêtre effectivement de l'orgue de Barbarie, c'est une petite en fait, boîte à musique, puisque en fait, l'ancêtre de l'orgue de Barbarie, les ancêtres des orgues de Barbarie, c'était tout simplement des boîtes à musique. Et les boîtes à musique, c'est les premiers instruments qu'on appelait des automatophones, les premiers instruments en fait qui permettaient de reproduire une musique simplement en actionnant un mécanisme sans être soi-même musicien. Donc la serinette, en fait, c'était tout simplement une petite boîte à musique qui servait à faire chanter les serins, les oiseaux,
D'accord.
Les petits oiseaux. On leur serinait, d'où le verbe seriner. Mmh. On leur serinait en boucle la même mélodie en tournant une petite manivelle.
Voilà, seriner qui veut dire répéter de nombreuses fois. Hein. Des fois, on dit aux gens d'arrêter de seriner.
Voilà, généralement, c'est plutôt un peu péjoratif comme terme.
Et le serin, c'est une espèce de petit canari.
Le serin, c'est un petit. Voilà, c'est un petit canari. Et donc, quand on lui avait seriné suffisamment la mélodie, eh ben, il pouvait la reproduire. Donc, les femmes, plutôt dans la haute société d'ailleurs, se faisaient faire des petites serinettes pour faire chanter leurs oiseaux.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tu viens de parler de la haute société. Alors, parce qu'il y a l'orgue de Bavarie, on se dit, tiens, on l'a plutôt vu dans les rues.
Quelle était la cible ?
On vise pas forcément les aristocrates. Alors, comment on peut expliquer ? Il y a apparemment deux milieux différents qui ont eu cet instrument.
Bah, disons que peut-être que le fait, au départ, le fait de faire chanter des oiseaux avec une boîte à musique, c'est vrai que c'était plutôt une activité réservée à des gens qui avaient le temps et plutôt à l'aristocratie. Et après, ce qui s'est passé, c'est que quand on est passé à l'orgue de Barbarie, c'est-à-dire un instrument de musique,
pour les saltimbanques.
Pour les saltimbanques, voilà, c'est passé dans la rue. Et une des choses qui l'a fait passer dans la rue, c'est qu'au retour des guerres napoléoniennes, les soldats qui avaient été, pour beaucoup, un peu diminués, amputés d'un membre, l'État, officiellement, leur a donné l'autorisation de mendier, de faire la manche, avec un orgue de Barbarie. Et c'est un peu à partir de là qu'on a vu beaucoup d'orgues de Barbarie dans la rue. Donc c'est vrai que c'est un instrument qui est quand même beaucoup associé à la rue et à la manche, on peut dire, à la mendicité.
Dans les dernières recherches qu'on a faites avec Joachim, on a trouvé des anecdotes. Alors, on en rit un petit peu aujourd'hui, mais c'est un petit peu triste. Mais par rapport à l'utilisation dans les milieux avec les soldats, là, on a eu des anecdotes comme quoi, par un moment, le pauvre joueur d'orgue de Barbarie avait été pris pour une mitraillette.
Possible,
et il y en a un qui s'est fait descendre comme ça au loin. On a cru que c'était quelqu'un qui allait tirer dedans.
Bon, ça, c'est pour faire c'est diversion et au final, ça a mal tourné.
Mais par contre, il était expliqué que ça avait servi aussi pour faire marcher les soldats au pas, qu'ils avaient utilisé un orgue de Barbarie. Alors bon, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais on se dit que c'est intéressant par rapport à ce que tu disais, les soldats.
On peut jouer toutes sortes de musiques. Moi, je suis assez peu versé dans la musique militaire, donc je ne pratique pas avec l'orgue de Barbarie, d'accord. Mais c'est possible, effectivement.
Et c'est ce qu'on va faire découvrir dans la soirée, puisqu'on va essayer de partir de morceaux assez classiques, assez attendus, pour aller petit à petit vers d'autres.
Est-ce que tu ne jouerais pas un premier petit morceau pour voir de quoi tu es capable ?
Ok, c'est parti.
Donc tu vas te mettre en place, et puis on va écouter alors quelque chose qui est très connu, un morceau très 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 connu et qu'on peut écouter donc sur les foires, dans les rues,
d'une grande personne qui a fait beaucoup de chansons.
Voilà, Edith Piaf.
Et qui s'appelle Edith Piaf, effectivement.
Edith Piaf, alors puisque on te voit te mettre en place, on va pouvoir en parler un petit peu. Donc c'est les amants d'un jour, cette fameuse chanson qui raconte que des amants viennent louer une chambre d'hôtel, mais en fait pour y passer la dernière nuit de leur vie, puisqu'ils vont se suicider, et que la chambre finit par rester à louer. C'est à toi, Rino.
On te laisse te mettre en place et enfin te lancer.
Pour pouvoir rêver et lancer les corps banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins. Portant le soleil, ils ont demandé une voie tranquille, un lit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils sont regardés d'un air attendri, la chambre d'hôtel au papier joli. Maintenant j'ai fermé la porte sur eux, il y avait un soleil au fond de leurs yeux. Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal.
Moi, je suis les verres au fond du café. J'ai bien trop pas faire pour pouvoir rêver. Mélange sous les corps, banal à pleurer. C'est corps contre corps qu'on les a trouvés. Unis
tout au fond du cœur. Un coup de leur soleil, tant de couleurs, que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Mais au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer. La 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 la.
Yeah! Eh bien, merci à toi de cette prestation et de ce son que tu nous as fait partager.
Réno, les amants d'un jour sur Indestar.
C'est ça. Eh bien.
Pendant que Réno vient s'installer,
nous rejoint de nouveau.
On va parler de bonnes nouvelles parce qu'on fait des recherches de savoir un petit peu dans ce monde-là qui semble parfois pas tourner aussi rond que la manivelle. Est-ce qu'il se passe des choses sympas?
C'est ça. Eh bien, on va annoncer dans chaque émission le héros de la semaine si possible, ou alors si on ne peut pas annoncer un héros chaque semaine parce que ça ne serait pas forcément évident chaque semaine, mais on va essayer. En tout cas, cette semaine, j'ai trouvé un héros et pas n'importe quel héros. Une célébrité a fait quelque chose de fantastique. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez une idée?
Alors moi je ne sais pas, et je t'ai dit je voulais pas savoir, mais par contre je ne sais pas si c'est ça, mais par rapport aux incendies en Australie, moi je trouve que c'est très bien que les célébrités qui ont un petit peu d'argent se monopolisent pour donner un petit peu, pour aider à sauver tous ces animaux qui sont en danger et pour éteindre les feux, sauver
les
gens.
Mais effectivement ce n'est pas ça, c'est une célébrité de type acteur américain, un des plus grands, qui s'appelle Leonardo DiCaprio, qui a sauvé la vie d'un homme français, 24 ans. Ça s'est passé donc le 30 décembre dernier. Monsieur DiCaprio et sa compagne Camila Moron étaient sur un yacht dans les îles Caraïbes, près des côtes de Saint-Barthélemy, plus exactement. Et ils ont reçu, le capitaine du bateau a reçu un appel un peu pas original, parce qu'au final, malheureusement, ça arrive un peu trop
inattendu.
C'est les gardes-côtes qui disent que c'est le yacht le plus proche, là où il y a eu un accident. Un fameux un bateau de croisière du Club Med qui a vu une personne en vacances, donc un Français de 24 ans qui est passé par-dessus bord après une soirée bien arrosée. Ouais.
Maintenant je vois ce que c'est.
De quoi ?
Je vois ce que c'est, parce qu'en fait, sous l'eau, DiCaprio, à un moment, il a donné de l'oxygène à l'autre personne qui était avec lui
qui n'aurait pas
pu remonter s'il lui avait un peu d'oxygène.
C'est probablement parce que, en tout cas, la personne est restée dans l'eau plus de 11 heures il a été retrouvé juste à temps. Et enfin, c'est des effets assez, pas original, mais. Enfin, impossible, parce qu'en fait, tout était une question de timing. Ça faisait plus de 11 heures qu'il était dans l'eau. Une seconde de plus, il aurait pu... Enfin, ou une seconde de moins. En gros, c'est un miracle vraiment qu'il ait été sauvé. Il y avait une tempête qui était annoncée qu'il devait arriver.
Disons que sans oxygène, de toute façon, sous l'eau.
C'est ça. du coup, Leonardo DiCaprio a sauvé cette personne dans les îles Caraïbes le 30 décembre dernier.
Voilà. Donc, ça n'avait pas à voir avec ce que j'ai dit avant. Mais par contre, DiCaprio fait partie des personnes qui ont beaucoup donné, il me semble, aussi pour
d'une paire de coups.
Donc on peut remercier
monsieur Leonardo DiCaprio.
On peut se rappeler Titanic et d'autres choses, il a fait énormément.
C'est ça, justement, il y avait un peu des références par rapport à ça dans l'article. D'ailleurs, c'est un article de The Sun qui disait que en gros, voilà, après être noyé, il a sauvé une personne de la noyade.
On critique souvent les gens qui ont de l'argent, mais il y a quand même des gens qui savent bien l'utiliser, et donc merci.
Merci à monsieur Leonardo DiCaprio.
Et merci pour ce que vous faites, puisque ça nous divertit aussi beaucoup.
C'est ça. De retour avec Renaud sur Indestar. Donc on est toujours jeudi, bien sûr, hein, vous êtes sur Indestar. Donc du coup, on a parlé de l'histoire et des origines de l'Orgue de Barbarie. Et la tienne maintenant, origine, ton histoire, ton parcours. En es-tu arrivé là?
Mon histoire avec l'orgue, c'est tout simplement au départ la passion du chant. Hein, puisque en fait, pour moi, l'Orgue de Barbarie sans le chant a beaucoup moins d'intérêt. Pour moi, l'intérêt principal, c'est de m'accompagner en chantant. Donc voilà. Donc pendant très longtemps, j'ai chanté en étant à l'affût de tous les musiciens qui pourraient m'accompagner, sans moi-même apprendre la musique, malheureusement. Et puis à un moment, j'ai su que cet instrument-là existait encore, et je me suis dit, C'est ça qu'il me faut.
C'est un contexte un peu particulier quand même.
Alors le contexte particulier, c'est que la première fois que j'ai eu l'occasion de jouer de l'orgue de Barbarie, c'était un peu factice. Et donc sur mon lieu de travail, dans la clinique de la Borde à Courchevel, une clinique psychiatrique, où on faisait une kermesse, qu'on fait tous les ans au 15 août. Et pour cette kermesse, en fait, on avait fabriqué donc à l'époque, ça fait une vingtaine d'années, n'ayant pas d'orgue de Barbarie, mais ayant envie d'en avoir un sous la main, en fait, on avait fabriqué un objet un peu factice. C'est-à-dire un orgue de Barbarie en bois, mais juste le coffre, et puis une manivelle, un carton, et à l'intérieur un poste de radio avec un CD d'orgue de Barbarie. Donc ça, c'était mon premier orgue de Barbarie, qui était vraiment un orgue de faussaire,
usurpateur, voilà.
mais quand même des sensations.
Mais quand même des sensations
qui t'ont fait naître un peu.
Voilà, et je me suis dit un jour j'en aurai un vrai comme un grand, quoi. Voilà.
Ok.
Un jour je tournerai la manivelle.
C'est voilà. Ça. Et maintenant, ça fait combien d'années que tu tournes la manivelle?
Alors mon premier orgue de Barbarie, je l'ai acheté en 2006, donc ça fait 13-14 ans, ouais, c'est ça.
On parlait quand on t'avait rencontré à peu près des prix. Il me semble me rappeler qu'on en trouvait autour de 3000 euros. Est-ce que c'est
ouais, c'est une moyenne. Alors après, il y a des, comme pour tout instrument de musique, en fait, il y a des variations assez importantes, bah, selon la taille de l'instrument, sa gamme, pour ceux à qui ça parle, puisqu'il y a des gammes plus ou moins étendues, donc qui permettent des mélodies plus ou moins riches. Donc,
et puis on peut les acheter à des fabricants, comme on peut les acheter, voilà, chez des gens qui en ont conservé.
On peut les acheter d'occasion, on peut en acheter des très anciens. Et puis il y a plusieurs fabricants, il y a des fabricants qui sont décédés, des fabricants anciens qui sont plus en activité, comme les fameux frères Limoner.
Donc le Limoner qui était un orgue plus volumineux.
Voilà, les frères Limoner, ils fabriquaient des gros orgues de Barbarie, donc après c'était tellement célèbre qu'on appelait les gros orgues des Limoner. Et donc il y a des variations de prix effectivement assez importantes selon la taille de l'instrument, la réputation du fabricant, le fait que ce soit un professionnel ou un amateur, et d'occasion ou pas, effectivement.
Et en parlant de prix et d'ancienneté, j'avais lu d'ailleurs, parmi toutes les anecdotes que j'ai lues, parce qu'on ne peut pas tous les annoncer parce que sinon on ferait une émission de 2 heures, bien évidemment, mais en tout cas j'avais lu qu'à l'époque où ça a été créé et tout, vu que c'était plutôt à destination du bas peuple, pour en jouer, c'était pas des sujets
pour les saltimbanques, on disait.
Voilà, les saltimbanques. C'était vendu entre 100 et 300 francs à l'époque, c'était pas grand chose, je pense. Donc. Je pense que les
premiers orgues de Barbarie, effectivement, alors étaient à la
fois. Mais
les francs de l'époque, est-ce que c'est des francs de l'époque? Est-ce que c'est quoi? Parce que moi je l'ai lu.
Oui, c'est les anciens francs,
je me suis interrogé.
C'était sans doute moins coûteux. Alors après, ils étaient peut-être aussi pas toujours d'aussi bonne qualité.
Oui, bien sûr, les tout premiers, ça devait être un peu.
Les sons étaient peut-être des fois un petit peu dissonants, et c'est peut-être d'ailleurs de là que vient le nom.
Le mot de la Barbarie.
Ce nom bizarre de Barbarie. Mais effectivement, c'était sans doute à l'époque plus accessible que maintenant.
Oui. Barbarie, barbare, étranger,
ou
bas peuple, etc. Il y a beaucoup de choses. Et puis il y a dans les hypothèses, on voyait aussi qu'il y avait éventuellement un monsieur de Barbarie ou quelque chose
Voilà, par rapport à l'origine du nom, il y a plein d'hypothèses dont aucune n'a été validée. Et entre autres, voilà, il y a des gens qui parlent du nom d'un inventeur, donc il y aurait un Giuseppe Barberi,
italien,
ou un John Burberry, anglais, qui aurait donné leur nom à l'instrument. Mais tout ça, ça reste
hypothétique. Mais qui a donné nom aux vêtements après, non?
Peut-être c'est le même, il s'est recyclé après.
Ils sont pas bon marché, hein. On va acheter des orques, c'est moins cher que les...
Je sais pas vous, mais j'écouterais bien un second morceau.
Eh ben oui, tout à fait.
Est-ce que tu serais chaud pour nous faire un second morceau, Renaud?
Ok, c'est parti.
Eh ben allez, on te laisse t'installer. Et pour ce second morceau, tu nous as concocté, tu nous as préparé un petit morceau plutôt sympa. Moi, j'avais déjà entendu et vraiment bien.
Oui, si vous vous rappelez, le groupe Pigalle, si ça vous dit quelque chose, le groupe Pigalle qui chantait... Salle.
Oui, dans la salle du bar tabac des Martyrs.
De la rue des Martyrs.
De la rue des
Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs.
Ça
vous rappelle l'air. Voilà, Renaud est en place.
Oui, et bien on va pouvoir te laisser l'antenne. Et à toi.
Indestar, 20h55.
Certains s'assoient tout à coup dans un coin.
y a les seringues vidées écoulement dans des bras sans avenir. Ici la dope, c'est à la poignée. Les petites cuillères servent que rarement pour le café. Il y a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Il y a des bookmakers qui ramassent leurs mises.
C'est le prochain événement lieu et date. Citation,
dans la salle du bain, tabac, citation, dans la rue des martyrs.
Non ?
On peut tout acheter,
si bon, on peut le faire,
tout vendre, le meilleur ou le pire.
Ouais,
une vieille clocharde, la gueule défoncée, entre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire !
Du bar tabac de la rue des martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs.
Bravo!
Yes!
Merci Renaud, excellent.
Merci
Renaud,
c'était très
quel bon.
Hein.
On écouterait ça pendant des heures.
C'est ça.
Malheureusement, on voit le compteur qui tourne.
C'est ça, on n'a qu'une demi-heure malheureusement.
On peut mentionner que tu es actuellement en train de travailler aussi sur un morceau de Queen qu'on n'aura pas pu écouter, mais peut-être une autre fois.
On pourra le mettre un petit peu.
Où tu travailles sur We Will Rock You, yes. sans pour l'instant tout maîtriser. Alors, en anglais, mais c'est très...
Du coup, admettons que des auditeurs soient tombés amoureux de ce que tu produis, du travail que tu fournis. Comment te retrouver, comment te voir, quelles sont tes prochaines dates où te trouver?
Alors, la première chose, c'est que j'ai des dates qui sont effectivement prévues, calées, dans des endroits où on m'appelle. Mais j'aime bien aussi...
être appelé.
Voilà, et perpétuer aussi la tradition de justement me produire dans des endroits où je ne suis pas attendu. Donc, okay. En fait, je suis beaucoup dans la rue à Amboise. Donc déjà, si vous êtes dans les environs d'Amboise, au moment où il commence à faire beau, au printemps, en été, je suis souvent le dimanche aux abords du marché.
Vous êtes les bienvenus.
Et l'après-midi dans la rue. Donc là, vous êtes les bienvenus... Effectivement.
Profitez-en pour faire un tour du marché et puis après rester.
Exactement. Généralement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au début du marché, les gens s'attardent moins et puis après, en revenant, on a plus de temps. Voilà. Et sinon, dans les dates plus officielles, on va dire, entre guillemets.
Donc, marché d'Amboise, on est dans le 37 hein, parce qu'on nous écoute dans toute la France.
Oui, je peux aller plus loin.
Dans l'Indre-et-Loire, c'est au niveau de Tours.
Hein. Donc dans l'Indre-et-Loire, voilà, aux environs d'Amboise. Et puis dans le courant du mois de mars, le 7 mars, je joue au carnaval de Saint-Bran, qui est aussi une commune. D'Indre-et-Loire et puis à la suite peut-être au mois de juin pour la fête de la musique.
Ouais,
là je serai à Blois. D'accord. Dans le Loir-et-Cher.
Voilà, 41 000 là.
C'est ça.
Pas très très loin d'Amboise, dans une vingtaine de minutes.
C'est
vous
ça. Eh bien, c'est malheureusement la fin de l'émission. On pourrait se clôturer ça avec une petite citation et puis un petit morceau de Will Rock You, un petit exclu mondial. Hein.
D'accord, alors j'ai une petite citation sur les passions. La raison est historienne, mais les passions sont actrices. Antoine de Rivarol, réfléchissez là-dessus.
C'est ça, méditez bien.
La semaine prochaine, et nous aurons un autre invité dans un autre domaine, mais ça, il faudra encore le deviner.
C'est ça, et il faudra
et la soirée continue, hein. Nous avons PK Avenger, la super soirée, ce soir,
qui
avec
arrive.
Une thématique géniale qui est
Harry Potter. Ça va être une grande émission qui va être plutôt longue.
Restez
je pense
sur NDStar pour ça et
ils
puis,
vont parler
et puis,
de tout l'univers quoi. Et donc du coup on va écouter un petit morceau final de Renaud et donc le morceau qu'il est en train de travailler parce que comme il disait il est pas encore au point pour chanter en anglais.
C'est un croisement entre Freddie Mercury et Hugo Frey.
D'accord.
Ah, donc c'est presque un mash-up. Les mash-ups,
c'est un mash-up, voilà.
Où on a des morceaux qui se superposent et il y a la création de l'artiste. Bah écoutez, vous allez avoir un mash-up en direct. C'est quand même assez extraordinaire.
C'est ça.
Et on vous souhaite une bonne année à tous. Hein. Restez à l'écoute d'une star.
Et directement après We Will Rock You, un petit passage rapide de Renaud, présent sur Amboise. Vous aurez droit également à Sarah H qui nous fait une cover de Señorita. Forcément le Señorita de Shawn Mendes et Camila Cabello.
Donc,
bonne soirée sur
Indestar
et à la semaine prochaine jeudi 20h30 21h.
Bisous
votre rendez-vous hebdomadaire.
Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays des Santons. Le petit âne gris. Le petit âne gris. Quand il vint au domaine, il y avait un beau troupeau. Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux, marchant toujours en tête, aux premières lueurs. Tirait sa charrette, il mettait tout son cœur. Le petit âne gris. Le petit âne gris. Au temps des transhumances, il s'en allait heureux, remontant la Durance, honnête et courageux. Mais un jour de Marseille, les messieurs sont venus. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. Le petit âne gris.
Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.